Cyril, le journal des médias qui démarre maintenant et qui débute avec Netflix. Netflix qui a décidé de changer ses règles de fonctionnement.
Les 30 jours gratuits, le temps de vous gaver de You, de The Crown, de Narcos, eh bien c'est terminé. Netflix a décidé que les Français, les Espagnols, les Danois et les Anglais ne pourraient plus passer par la case gratuit avant de décider s'ils veulent s'abonner au service de vidéo. À la place, ceux qui veulent essayer l'expérience Netflix devront se contenter de certains contenus que la plateforme met gracieusement à leur disposition. Mais attention, leur nombre sera très limité. Alors bonne ou mauvaise idée, ce qu'on peut dire, c'est que si Netflix a décidé de supprimer son mois gratuit dans certains pays, c'est qu'il y est déjà extrêmement bien implanté et que la concurrence ne lui fait pas peur, en tout cas pas pour le moment. Par exemple, aux États-Unis, le mois gratuit reste bel et bien d'actualité. Et ce n'est pas un hasard, c'est là-bas que Netflix est le plus sévèrement soumis à la concurrence, notamment celle de Disney qui a fait des ravages depuis son lancement. Disney Plus compte déjà plus de 28 millions d'abonnés, 3 mois seulement après son lancement.
Ce qui est juste complètement phénoménal, on entendait 3 fois ou 4 fois moins. Cyril, on en sait maintenant un peu plus sur le casting de la nouvelle émission de Daphné Burki.
Ouais, de nouveau sont annoncés ce matin par Le Parisien, Leïla Kaddour, qu'on connaît et qui présente les journaux de 13h du week-end de France 2, et un revenant, Bertrand Chameroy, ex-membre de Touche pas à mon poste, s'apprête à tourner un nouveau pilote de cette émission, notamment consacré aux médias. Ça fait un bout de temps qu'on n'avait pas vu Bertrand Chameroy à la télé. La dernière fois, c'était sur W9, dans l'émission OVNI, l'info retournée, qui avait été annulée après sa première saison. L'émission de Daphné Burki doit être lancée courant mars. Un pilote, c'est comme ça qu'on appelle une émission test dans le jargon, va être tournée ce samedi et son petit nom aujourd'hui, c'est Contrebande.
Xavier Niel, serait-il en train de continuer ses emplettes sur le marché des quotidiens?
Après avoir finalisé le rachat de Nice Matin, le fondateur et patron de Free serait cette fois intéressé par France Antilles. Le quotidien publié en Guadeloupe et en Martinique avait été placé en liquidation judiciaire, mais il pourrait finalement être sauvé. Lors d'une audience hier au tribunal de Fort-de-France, le juge a décidé de donner un peu de temps à l'entreprise pour se trouver un repreneur. En cause, une proposition de Xavier Niel, donc. Si celle-ci n'a pas encore été détaillée, elle arrive comme un miracle pour les salariés de France Antilles qui croyaient leur avenir scellé. Créé il y a 56 ans, le quotidien doit faire face à d'importantes difficultés financières. Selon les Échos, en 2018, ses pertes s'élevaient à 6 millions d'euros.
C'est vraiment une très très bonne nouvelle, puisque nous recevions la semaine dernière des journalistes justement de France Antilles. On disait que c'était le premier département dans lequel il n'y aurait plus de quotidien. Espérons que la chose se fasse. Cyril, le ministère de la Culture fait planer une nouvelle menace sur Radio France.
Cette menace, c'est de limiter le droit de grève pour les antennes du service public. C'est ce qu'a brandi Franck Riester, le ministre de la Culture, au syndicat de Radio France fin janvier, lors d'une rencontre que raconte le Figaro ce matin. Face à ses interlocuteurs, le ministre a haussé le ton. Alors que Radio France connaissait la plus longue grève de son histoire, le ministre les a prévenus qu'il risquait gros, notamment que des députés veuillent faire entendre leur ras-le-bol et dégainent un amendement pour limiter leur droit de grève lors du prochain débat sur la loi audiovisuelle. Une manière pour les parlementaires d'instaurer une continuité du service public comme cela peut déjà exister dans les transports en commun.
Et Cyril, on reste avec Franck Riester, mais cette fois, quoi, un problème d'acouphène?
Eh oui, il a raison, des problèmes auditifs du ministre, c'est ça. C'est le refrain de la chanson de Tom Leb, The Best in Me. Le représentant de la France à l'Eurovision, et le moins qu'on puisse dire, c'est que notre ministre de la Culture ne semble pas prêt à lui donner la meilleure note. Écoutez ce qu'il disait hier lors d'une audition à l'Assemblée nationale.
C'est vrai que les paroles des couplets sont en français, mais le refrain est en anglais. Ça m'a un peu cassé les oreilles ce matin à la radio, mais j'ai, sachez-le, fait passer le message de mon étonnement quant à une chanson dont le refrain est écrit en anglais. Chacun à sa place doit être exemplaire et montrer l'exemple, donc pour faire en sorte que la France soit portée avec fierté partout, tout le temps.
On sent le ministre légèrement gêné aux entournures. Décidément, les astres ne semblent pas très favorables à Tom Leb. Hier, je vous disais que les bookmakers ne lui donnaient pas plus de 2% de chance de l'emporter. Mais, les critiques des membres du gouvernement n'ont pas toujours porté la poisse aux candidats de l'Eurovision. Au contraire, en 2016, André Valigny, alors secrétaire d'État en charge de la francophonie, avait déjà critiqué le choix de cette chanson. La chanson d'Amir Haddad, dont le refrain en anglais ne plaisait pas à André Valigny, s'était classée en 6e position à l'époque, une des meilleures performances françaises de ces dernières années. André Valigny avait remis le couvert l'année suivante, cette fois avec la chanson d'Alma Requiem, mais cette fois sans lui porter chance. Alma avait fini 12e de l'Eurovision. Alors, Tom Leb, plutôt Amir ou Alma? Réponse le 16 mai à Rotterdam et sur France 2, bien sûr.
Et puis Cyril, hier, vous nous aviez parlé d'Interville qui va prendre ses quartiers à Disneyland Paris, la nouvelle version d'Interville, et je vous avais posé une question.
Oui Philippe, vous m'avez demandé comment s'est noué le deal entre eux, d'un côté le parc d'attractions et de l'autre France 2. J'ai donc moi-même posé la question et j'ai la réponse à votre question. Il s'agit donc à peu de choses près de ce qu'on appelle un échange de marchandises. D'un côté, Disneyland Paris met à la disposition d'Interville l'ensemble des lieux qui serviront au tournage de ses émissions. Et de l'autre, France 2 offre de la publicité à Disneyland Paris. Et comme le compte n'y est pas tout à fait, Disneyland Paris achètera en sus d'autres espaces publicitaires auprès de France 2. Et c'est comme ça que chacun trouve son compte entre la chaîne, la production et le parc d'attractions. Un win-win, comme on dit dans le business.
Merci Cyril Lacarrière, quel winner. On se retrouve demain pour un nouveau Journal des Médias.